Chapitre 2. Chez les jésuites. J'avais 10 ans lorsqu'on m'expédia à l'école de Hodder, préparatoire à Stonyhurst, qui est le grand collège catholique du Lancashire. Pour un gamin qui n'avait jamais quitté sa famille, c'était tout un voyage. Je l'entrepris dans un sentiment d'abandon qui m'arrachait des larmes amères. Cependant, j'arrivai sain et sauf à l'heure dite en gare de Preston, d'où j'achevais en voiture, avec d'autres garçons de mon âge, sous la surveillance de maîtres jésuites, le trajet de 12 miles jusqu'à l'école. Hodder se trouve à 1 mile environ de Stonyhurst. C'est une très utile institution. On y reçoit les enfants jusqu'à 12 ans pour qu'en arrivant chez les grands, ils soient déjà rompus aux disciplines scolaires. Je passai 2 ans à Hodder. L'année, en ce temps-là, n'était pas coupée de ces congés continuels qui font aujourd'hui diversion à la sévérité des études. Nous ne quittions l'école que pour 6 semaines d'été. En définitive, ces 2 années furent pour moi très heureuses. Intellectuellement et physiquement, je sus me tenir au niveau de mes camarades. J'eus la chance d'avoir pour principal l'excellent père Cassidy, homme plus humain que ne le sont en général les jésuites. Je garde un souvenir chaleureux et de lui et de ses façons gentilles pour les vrais petits polissons dont il avait la charge. C'est durant mon séjour à Hodder que vint à éclater la guerre franco-allemande et l'événement fit sentir ses remous jusque dans nos eaux calmes et fermées. De Hodder, je passai à Stonyhurst. Quelques 150 ans plus tôt, les jésuites, devenus légataires de cette grande résidence médiévale, en avaient fait un établissement privé d'instruction où ils avaient emmené d'un collège de Hollande tout leur personnel enseignant. Le programme des études n'y datait pas moins que l'édifice, mais il en avait la solidité. On les a, d'ailleurs, me dit-on, modernisés depuis. Il y avait 7 classes. Éléments, calculs, rudiments, grammaire, syntaxe, poésie, rhétorique. Chacune demandait toute une année. Je les fis toutes les 7, y compris les 2 que j'avais faites à Hodder. C'était l'habituelle routine des écoles. Euclide, l'algèbre et les classiques enseignaient de manière à vous laisser une durable horreur. Donner à des enfants quelques maigres notions de Virgile ou d'Homère, sans les accompagner d'une vue d'ensemble, ni sur les circonstances de leurs œuvres, ni sur l'époque classique, cela constitue évidemment une méthode absurde. Pour moi, un enfant intelligent s'instruirait beaucoup mieux sur Homère si, pendant une semaine, il le lisait dans une bonne traduction, au lieu de passer 1 an, comme le veut d'ordinaire la coutume, à l'étudier dans l'original. Sous ce rapport, les choses n'étaient pas pires à Stonyhurst que dans n'importe quel collège. Je n'en vois qu'une justification possible, à savoir qu'un examen quelconque, si stupide soit-il, fait l'office d'un alter mental pour le développement du cerveau. Théorie, à mon sens, complètement fausse. Je le dis en vérité, mon latin et mon grec, qui me coûtèrent tant d'heures pénibles, ne m'ont servi à rien dans la vie et pas davantage mes mathématiques. D'autre part, certaines connaissances, acquises presque au hasard, par exemple l'art de lire à haute voix, auquel je m'initiais tout seul près de ma mère pendant qu'elle tricotait, ou le français des livres, que j'appris dans les romans de Jules Verne en lisant les légendes des gravures, m'ont rendu dans la suite les plus grands services. Mon éducation classique me laissa la version des classiques et je fus tout surpris de découvrir leur charme quand, des années plus tard, je les abordais avec ma raison. Année par année, je me vois gravir ces 7 échelons de mon enfance. J'ignore ce que vaut le mode d'instruction des jésuites. Pour le savoir, il faudrait que j'eusse éprouvé un autre système. Au bout du compte, je crois qu'il a produit autant de bons sujets qu'aucun autre. Bien que nous eussions pour condisciples quantité d'étrangers et un bon nombre d'Irlandais mécontents, nous formions une communauté patriote et notre pouls battait avec le cœur du pays. On me dit qu'aujourd'hui, relativement aux élèves des autres collèges, les pensionnaires de l'ancien Stonyhurst détiennent une moyenne élevée de Victoria Cross et de Distinguished Service Order. Les éducateurs jésuites n'ont, et peut-être à bon droit, qu'une médiocre confiance en la nature humaine. On ne nous laissait pas seuls un instant, et par là, je crois, se trouvait réduite à ses moindres conséquences l'immoralité qui sévit d'habitude dans les collèges. Point de jeu ni de promenade où ne prissent part nos maîtres ecclésiastiques. Un d'eux parcourait la nuit nos dortoirs. Il se peut qu'un pareil système affaiblisse le respect de soi et le sentiment de l'entraide, du moins il restreint la tentation et le scandale. Nous menions une vie spartiate sans manquer de rien dont nous eussions besoin. Le pain sec et du lait chaud, généralement étendu d'eau, consistait notre déjeuner du matin. Au repas de midi, nous avions un plat de viande et, deux fois la semaine, du pudding. Puis, dans la journée, un petit morceau de pain dit beurré, arrosé d'une boisson extraordinaire, brune et qui n'avait de la bière que cette seule caractéristique. Finalement, à souper, on nous servait du lait chaud, du pain, du beurre et souvent des pommes de terre. Notre santé s'accommodait fort bien de ce régime auquel le vendredi s'adjoignait du poisson. Tout, en somme, confinait pour nous à l'austérité, sauf que nous habitions une magnifique demeure, que nous dînions dans une salle à manger de marbre possédant une galerie de minstrels, que nous faisions nos dévotions dans une ravissante chapelle et qu'enfin nous vivions dans un milieu choisi pour tout ce qui concernait la vue, sinon le confort. Les fautes se punissaient corporellement. Je puis d'autant mieux attester la rigueur du châtiment que peu de garçons, à mon époque, le subirent davantage. Il était d'une nature particulière et, j'imagine, importé de Hollande. L'instrument en était un gros morceau de caoutchouc taillé en semelle de botte. Au premier coup bien appliqué, la paume de la main enflait et changeait de couleur. Si je dis que pour les grands, la dose normale était de 9 coups sur chaque main et que le nombre de 9 sur une main était un minimum irréductible, on comprendra que le patient ne put même pas tourner le bouton de la porte en quittant la chambre de torture. 2 fois 9 coups en hiver, c'était, peu s'en faut, l'extrémité de l'endurance humaine. Je crois, au reste, que, somme toute, cela nous faisait du bien. Car nous mettions un point d'honneur à nous raidir contre la souffrance, préparation excellente aux difficultés de la vie. Si je fus battu comme personne, ce n'est pas que je fusse le moins du monde vicieux, mais c'est que, naturellement sensible à la bonté et à l'affection qui toujours me faisaient défaut, je m'insurgeais contre la menace, je ressentais un orgueil pervers à montrer que la violence n'aurait pas raison de moi. Je commettais des fautes, des méchancetés gratuites pour prouver ma résolution. Eût-on fait appel à ce que j'avais de bon et non point à un sentiment de crainte, j'y aurais tout de suite répondu. Ce que je faisais méritait ce qu'on m'infligeait, mais je ne le faisais que parce qu'on ne savait pas me prendre. Je ne vois aucun de mes camarades qui se soit particulièrement signalé plus tard, sauf Bernard Partridge, du Punch, que je me rappelle comme un enfant très gentil, très tranquille. Celui qui devait être un jour le père Thurston et l'un de mes adversaires dans la question du psychisme se trouvait dans la classe immédiatement supérieur à la mienne. Il y avait aussi un jeune novice avec qui je n'avais que peu de rapport, mais dont j'ai toujours présent à l'esprit l'air de noble spiritualité. C'était Bernard Vaughan que son talent de prédicateur devait rendre célèbre. Sauf un camarade, James Ryan, chez qui se remarquaient déjà les qualités qui en firent un homme remarquable, je n'emportais de Sonnehurst aucune amitié destinée à durer. J'entrai dans la période avancée de mes études quand je me découvris certaines petites dispositions littéraires qui n'étaient point l'apanage commun. Si ce fut pour moi une surprise, c'en fut peut-être une plus grande pour mes maîtres qui voyaient mon avenir sous un jour assez noir. L'un d'eux, à qui je confiais mon projet de devenir ingénieur civil, me répondit tout franc « Ingénieur, passe encore, mais civil, je doute que vous le soyez jamais. » Un autre m'affirma que je ne ferais rien de bon dans le monde et il se peut que, de son point de vue, sa prophétie se soit justifiée. La circonstance qui mit au jour mes facultés latentes, c'est le fait que, dans l'avant-dernière des classes supérieures, où j'arrivais en 1874, nous avions à faire des compositions, dites poétiques, sur un thème donné. Tâche sinistre pour la plupart des élèves, dont les façons de courtiser la muse atteignaient au plus haut comique. Pour moi, qui adorais les vers, en écrire était une œuvre d'amour, et mes vers, si pauvres qu'ils fussent, semblaient miraculeux à mes camarades que n'aiguillonnait point la vocation. Mon passage dans la mer Rouge par les Hébreux, depuis le début, comme de pâles fleurs dans un bocage ombreux, ainsi sur le gazon, les tentes des Hébreux, sans négliger le développement, ils n'ont plus que le temps de songer à la fuite, le char égyptien presse encore sa poursuite. Jusqu'à l'effet final, l'horrible cri, la mer s'est d'un coup refermée, disparu Pharaon et toute son armée. Ne manquez pas de métier, bien que cela restât conventionnel et raide. En tout cas, on y pouvait voir ce que M. Stead appelait le poteau indicateur. J'y pris une certaine conscience de moi-même. La dernière année, je dirigeais le magazine du collège et commis bon nombre de poèmes, d'ailleurs sans intérêt. J'allais subir à Londres les examens d'immatriculation universitaire, excellente épreuve où l'on fait le tour des connaissances acquises et j'étonnais tout le monde par la manière dont j'enlevais mes diplômes. Si bien que je sortis de Sonnehurst à 16 ans avec plus d'honneur qu'on n'eût pu l'augurer de mes notes scolaires. Dès les premiers temps de mon séjour dans l'établissement, l'offre avait été faite à ma mère de lui remettre tous les frais de mon éducation pourvu qu'on me consacrât à l'Église. Ma mère refusa, de sorte que l'Église et moi eûmes la chance d'échapper l'un à l'autre. Quand je pense à la pénurie de ses ressources, au combat qu'elle devait soutenir pour joindre les deux bouts, tout en sauvant les apparences, je vois là un beau trait de son indépendance morale, puisqu'elle s'imposait ainsi une dépense annuelle de 50 livres, qu'un mot d'assentiment lui eût épargné. Cependant, je passai une année supplémentaire chez les jésuites, car on ne me jugeait pas en âge d'entreprendre des études professionnelles, et pour me permettre d'apprendre l'allemand, on m'envoya au collège autrichien de Feldkirch, dans le Vorarlberg, où vont s'instruire, par les soins de ces religieux, bon nombre de jeunes gens appartenant aux meilleures familles d'Allemagne. Et j'y trouvais une plus grande bienveillance qu'à Sonnehurst, ce qui eut pour effet de convertir un jeune rebelle plein de fiel en un ferme soutien de la loi et de l'ordre. Pourtant, je débutais mal. La nuit de mon arrivée, au dortoir, empêché de dormir par les ronflements sonores d'un pensionnaire, je patientais aussi longtemps que possible. Mais enfin, je n'y tins plus. Sur chaque côté des étroites couchettes étaient fichés de curieux compas de bois qu'on nommait betchir ou ciseaux de lit. J'en arrachai un, partis en quête du coupable, et l'ayant repéré, je me mis à le harceler du bout de mon arme. On juge de sa surprise lorsqu'en se réveillant, il se vit assailli par un grand jeune homme qu'il ne pouvait connaître car je n'étais arrivé que très tard. Tandis que je continuais à le secouer, on me tapa sur l'épaule, et je me trouvai en face d'un maître qui m'ordonna de réintégrer mon lit. Le lendemain, j'eus à subir une conférence sur le sang-gêne anglais et ma façon de prendre en main la loi. Mais ce fut là ma pire équipée, je me conduisis bien par la suite. Mon année à Feldkirch fut en somme une année heureuse. J'y fis moins de progrès en allemand que je ne l'aurais dû, car nous étions une vingtaine d'anglais et d'irlandais qui formions un groupe inséparable et, par là, contrarions naturellement le dessein de nos parents. À défaut de criquet, nous pratiquions le toboggan et le football sur échasse. Autour de nous régnaient d'aimables montagnes où l'on nous menait en promenade. La nourriture valait mieux qu'à Sonnehurst. La bonne bière y remplaçait les infâmes dilutions de là-bas. J'acquis un talent que je ne prévoyais guère, l'instrumentiste qui jouait la partie de bombardon dans le bel orchestre du collège n'étant pas revenu cette année, on me prit, en raison de mon âge, pour lui succéder. Une ou deux semaines après ma première leçon, je jouais en public, et non point de la musiquette, mais Lohengrin et Tannhauser. Il est vrai que le bombardon est soumis à un rythme très accentué. Si, parfois, il se permet une fantaisie, c'est avec la grâce d'un hippopotame qui exécuterait un pas de danse. L'instrument était de si grande taille que les autres musiciens s'amusaient à fourrer dans son pavillon mes draps de lit, mes couvertures, et je me rappelle ma stupeur quand je m'efforçais en vain d'en tirer une note. Je quittai Feldkirch dans l'été de 1876, emportant des jésuites autrichiens et du vieux collège un souvenir dont l'agrément ne s'est pas effacé. Je garde, en effet, un sentiment de sympathie pour les jésuites, si loin que j'ai erré hors de leur voie. Je me rends compte et de leurs vertus et des limites où ils s'enferment. À certains égards, on les calomnie. Je ne sache pas qu'en mes 8 années de contact journalier avec eux, ils se soient montrés moins francs ni plus casuistes que d'autres. C'était, autant que je l'ai connu, des esprits sérieux et honnêtes. Le troupeau pouvait avoir ses brebis noires, elles étaient peu nombreuses, le procédé de sélection étant rigoureux et long. Tout chez eux méritait l'admiration, sauf leur théologie. Il lui devait une dureté, une inhumanité de surface qui est, au surplus, l'effet général du catholicisme dans ses formes extrêmes. Le jour qu'on rentre dans leur ordre, on est perdu pour sa famille. L'étroitesse et la sévérité de leur vue leur donnent cette force d'autorité que l'on remarque également chez les puritains, comme dans toutes les confessions inflexibles et strictes. Dévoués, intrépides, ils se sont faits, maintes fois, au prix de bien des souffrances, les avant-coureurs de la civilisation, au Canada, en Amérique du Sud, en Chine. Ils constituent l'avant-garde de l'Église catholique romaine. Le tragique, c'est que, tout heureux qu'ils seraient de donner leur vie pour leur foi, ils ont contribué à sa ruine. C'est eux, effectivement, que, d'après le père Tyrell et les modernistes, on trouve au fond des doctrines excessives, telles que l'infaillibilité du pape et l'immaculée conception, eux à qui est imputable ce resserrement du dogme qui rend si difficile, pour un homme ayant le désir scientifique de la vérité et le respect de soi, l'attachement à l'Église. Pendant plusieurs années, Sir Charles Mivart, le dernier des savants catholiques, tenta l'impossible avant de reprendre lui aussi sa liberté. De sorte que je ne vois plus un savant, ni même un penseur en renom, qui pratique le catholicisme. C'est l'œuvre des extrémistes, déplorée par les modérés, furieusement condamnée par les modernistes. Et c'est aussi la faute du directoire central italien qui donne ses ordres. Rien ne saurait dépasser en intransigeance la bigoterie de la théologie jésuite ou son apparente ignorance de ceux qui heurtent la conscience moderne. Je me rappelle avoir, étant grand garçon, entendu un fougueux ecclésiastique irlandais, le père Murphy, affirmer que, hors de l'Église, la damnation était inévitable. Je le regardais avec horreur. De cet instant date la première brèche qui allait s'étendre et s'approfondir jusqu'aux dimensions d'un gouffre entre mes guides et moi. Lors de mon retour en Angleterre, je m'arrêtai à Paris. Il y avait toujours eu dans ma vie, jusque-là, un grand-oncle invisible, nommé Michael Conan, à qui je dois un paragraphe. Notre parenté venait du mariage de sa sœur, Miss Conan, avec le père de mon père, H.B. Michael Conan avait dirigé l'Art Journal. C'était un homme distingué, un de ces intellectuels irlandais qui créèrent le mouvement du Sinn Féin. Passionné d'héraldique et d'archéologie autant que ma mère, il rattachait plus ou moins directement nos origines au duc de Bretagne, qui tous étaient des Conan, Arthur Conan, entre autres, ce malheureux jeune prince à qui le roi Jean, d'après Shakespeare, fit crever les yeux. Mon grand-oncle était aussi mon parrain, d'où mes prénoms d'Arthur Conan. Il vivait à Paris, nous étions en correspondance. Il avait exprimé le désir que son filleul et neveu, avec qui il avait échangé des lettres, alla le voir en passant. Je fis si bien mes comptes de voyage qu'après un souper joyeux à Strasbourg, j'arrivai à Paris n'ayant plus que 4 sous en poche. Ne pouvant me payer un fiacre, ni demander à mon oncle de le payer, je laissai ma malle à la consigne de la gare et m'engageai à pied dans les rues. J'atteignis la Seine, la longeai, gagnai le bas des Champs-Élysées, d'où je découvris à distance l'Arc de Triomphe. Sachant que l'avenue de Wagram, où habitait mon oncle, était proche, j'y grimpai par une journée d'août et parvins enfin à destination. La chaleur et la marche m'avaient épuisé. J'étais à bout de souffle quand je vis un homme qui portait sur le dos un grand cylindre métallique servir à un passant, pour le prix de 2 sous, un verre d'une boisson qui me parut être du porteur. J'arrêtai l'homme et, pour le même prix, me fis servir de même. La boisson était un mélange d'eau et de jus de réglisse. Elle me revivifia ce dont j'avais besoin, et l'on n'eût pu dire que j'arrivais chez mon oncle sans un sou, puisqu'il m'en restait 2. Ainsi, pendant quelques semaines, je menai à Paris une existence parcimonieuse auprès de ce bon vieil Irlandais volcanique qui passait l'été en manches de chemise, servi par sa femme, une petite personne qui voletait autour de lui comme un oiseau. De corps et d'esprit, il m'est présent à la mémoire plus qu'aucun autre Doyle. Nous nous liâmes d'une sincère affection, et je retournai enfin chez moi, conscient que j'allais entrer dans la vie réelle.